Il y a un privilège de pouvoir discuter comme ça, bâton rompu, avec un public qui s'intéresse aux thématiques africaines. Pour parler de l'Afrique, on pourra me dire que c'est très facile, n'est-ce pas? Tout le monde connaît l'Afrique. Si vous allez un tout petit peu au nord, ce sont des révolutions, des contre-révolutions qui donnent naissance non pas à des démocraties, me semble-t-il, mais à des ochlocraties qui perturbent la région. Si vous allez un tout petit peu à l'ouest, là-bas, c'est toujours les mêmes choses. C'est la guerre civile, c'est les massacres, c'est la pauvreté extrême. N'allez surtout pas au centre, parce que là-bas, c'est endémique, n'est-ce pas? Ces choses-là qui se passent, même me semble-t-il, un tout petit peu au sud. Donc vous voyez que l'Afrique, c'est la condensation, tout simplement, de tout ce qui est mauvais. On présente une Afrique qui ne va pas, qui est moribonde, qui est objet des relations internationales. Ça se situe dans une trajectoire historique, n'est-ce pas? Et qui n'apporte pas grand-chose dans la marche du monde, qui, nous semble-t-il, nous tire un tout petit peu vers le bas. Je pense que ce n'est pas de cette Afrique-là que je vais parler cet après-midi. Je vais vous présenter une autre Afrique. Une autre Afrique qui va devoir jouer un rôle substantiel et qui joue déjà un rôle substantiel, même si on ne l'informe pas assez. Alors quand on regarde dans ce monde actuel, le système monde, on se rend compte qu'il est en effervescence, n'est-ce pas? Des grands bouleversements, des grandes mutations, à la fois structurelles, à la fois institutionnelles, normatives, et qui font qu'il y a une redistribution des cartes géostratégiques. Et donc, un monde en même temps où vous avez, me semble-t-il, une opulence et une extrême pauvreté qui se côtoient, ce qui est un paradoxe. À la fois interconnecté, mais où l'autre est en même temps si loin, si proche, mais si loin. Vous avez ce système-là qui est né, me semble-t-il, depuis Westphalie. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure pour critiquer un tout petit peu ce postulat, et qui continue à exercer ses influences sur le reste. Et que donc, pour qu'une thématique ou une idée ou un concept soit sérieux, il faut que ça soit européocentriste. Il faut que ça vienne du monde occidental pour que ça reçoive le quitus de la scientificité. Donc je vais vous présenter une autre Afrique qui va partir d'une dynamique historique, à partir d'une trajectoire diachronique, situer les évolutions du continent, sa place dans ce système monde. Ensuite, je vais opérer quelques ça et là, quelques coupes synchroniques, des photographies comme ça sur ce qui se passe, et pour démontrer en fait le fait qu'il va falloir prendre l'Afrique au sérieux. Ce n'est pas une affirmation, c'est un constat. Alors, j'ai fait distribuer quelques feuillets pour donner un résumé de ce que je vais discuter. Alors, très rapidement, voici le continent de tous les paradoxes. Extrêmement riche, Madame Campbell vient de nous peindre ça, une richesse abondante, mais en même temps une pauvreté extraordinaire, inconcevable d'ailleurs. Et donc, quand on regarde en réalité, cette Afrique-là, elle possède tout ce que les autres n'ont pas. Paradoxalement, elle possède les richesses, elle possède la jeunesse, elle possède la population, elle possède des immensités non occupées, des terres qui ne sont pas encore occupées. C'est tout ce que les autres n'ont plus. Mais pourquoi alors ça ne va pas? Et ceci-là, je fais une coupe synchronique, c'est-à-dire une photographie en trois dimensions, n'est-ce pas, du continent. On présente les causes du sous-développement. Ces causes-là sont très largement reléguées dans la littérature, n'est-ce pas? Pour que vous ouvrez des documents ou des africanistes, vous allez voir que ça se situe dans une dimension triptyque. C'est-à-dire trois causes fondamentales. C'est l'homme noir lui-même qui pose problème, qui n'arrive pas à se faire son propre chemin. Et donc, une espèce de tare congénitale qui est liée à l'homme noir. Ensuite, il y a le fameux trois choses, n'est-ce pas? L'esclavage, la colonisation, une indépendance qui a été ratée. Et quand on prend tout cela, on arrive alors à ce qui se dégage du continent, c'est-à-dire le problème est lié au fait que toujours était, me semble-t-il, que la cause réelle vient d'ailleurs. Autrement dit, ce sont des facteurs exogènes qui empêchent le continent de se développer. La conséquence de ces trois modes d'appréhension du problème africain résulte à quoi? Résulte à cela. Une irresponsabilité totale des acteurs politiques. On relègue tout. Tout, me semble-t-il, vient d'ailleurs. La faute, c'est l'autre.
Ce n'est pas nous, c'est toujours les autres qui posent problème parce que nous sommes exploités, parce que nous sommes, on nous empêche de nous développer, parce que nous sommes-ils, on nous dirige et on nous exploite. Alors, ce qui va contribuer à faire quoi? À développer même au sein du corpus social africain une espèce de comportement d'évitement. On contourne les choses pour pouvoir toujours continuer ce qui ne va pas. Alors, mais quand on regarde le contexte africain, pour moi, toutes ces causes que je viens d'énumérer, elles ne sont pas pertinentes. Elles ont leurs valeurs, elles ont eu leurs valeurs historiques, elles peuvent expliquer certaines actions, mais me semble-t-il, la vraie raison, la principale cause du mal endémique africain reflète dans l'idée de l'État. Et c'est la partie, ou du moins, c'est l'ensemble de mes réflexions autour de l'Afrique. Autrement dit, les vrais problèmes doivent se retrouver au niveau de la formation de l'État. Et donc, immédiatement, la conséquence logique de cette affirmation, de ce postulat, ramène à revenir sur des postulats endogènes et non pas exogènes. Pour construire l'État, on ne peut pas à partir de l'extérieur. C'est pour ça que c'est un processus de construction. Donc la vraie cause du mal africain réside à la thématique de l'État moderne. Alors qu'est-ce qu'on entend par l'État? Les grands philosophes nous ont décrit, surtout les politologues, ce sont des constructions qui sont nées à partir de l'Europe, n'est-ce pas, au cœur de l'Europe. J'ai mentionné ici des grands auteurs, n'est-ce pas, du Moyen-Âge, qui va culminer vers la Renaissance et le XVIe siècle, c'est Dante. En observant la structure de la conjoncture ou des interactions entre les cités-états italiennes, Dante a produit le monarque, le monarchia, pour expliquer le fait qu'en fait, il faut revenir sur le statut. Et il utilise ici une expression qui est devenue absolument, me semble-t-il, absolument pertinente, c'est l'État. L'État, c'est ce mécanisme-là des procédés institutionnels de la gouvernance. Et donc, petit à petit, nous allons alors aboutir à un élément central ici qui, me semble-t-il, mérite quand même quelques réflexions, quelques critiques. On nous a montré le système monde aujourd'hui, à laquelle, ou du moins, un système mondialisé, où l'Afrique n'a pas sa place, en réalité, où sa place est réduite à un simple objet. On nous a présenté ce système comme dérivé du processus de Westphalie. Autrement dit, un système international fondé sur l'État, qui est l'acteur clé, qui rythme le tempo des relations internationales et qui façonne l'architecture internationale, parce que souverain, et donc égalité souveraine, et donc interdépendance. Me semble-t-il que dans ce cœur du système westphalien se trouve alors le moteur qui est la souveraineté. Et on nous a montré que cela est rendu possible à partir de Westphalie. Et vous voyez que l'Afrique n'est pas inclue. Je ne fais pas partie. Westphalie, c'est cette petite principauté là au nord de l'Allemagne. Et donc vous voyez que l'Afrique n'y est pas. Et pourquoi Westphalie? Parce que tout simplement, on est arrivé à un moment historique où vous avez deux pôles de puissance. D'une part, la papauté, et qui réclame alors l'établissement d'une monarchie universelle, d'une puissance universelle médiévale. D'autre part, vous avez le Saint-Empire, qui veut aussi mettre en place une monarchie universelle. Et donc, les deux pôles de puissance vont rentrer en compétition absolument endémique sur tout l'espace de l'Europe, même y compris en dehors de l'Europe. Ils vont rentrer en compétition et, puisque la compétition s'est exacerbée, effectivement, les deux pôles de puissance vont clasher. Donc, comme vous avez, j'aime dire à mes étudiants que c'est la théorie du Big Bang. Vous avez deux grandes forces de puissance à peu près égales qui entrent en collusion de façon très rapide, à une vitesse très élevée. La conséquence logique, c'est que les deux vont exploser. La papauté éclate sous le double poids à la fois de la réforme et de la réduction de sa force. Ensuite, vous avez le Saint-Empire qui va éclater et en lieu et place, on aura alors quelques entités semi-indépendantes. C'est ça le modèle westphalien. Les entités semi-indépendantes. Et alors, on affirme pour conclure que le modèle international que nous vivons aujourd'hui vient de là. À mon avis, c'est une mythologie.
un tout petit peu une mythologie.
Parce que quand on lit très bien ce qui se passe au niveau, ce qui s'est passé réellement, et qu'on se donne la peine de revisiter les textes fondateurs de Westphalie, on se rend compte que les trois traités, et non pas les deux, comme présente assez souvent, les trois traités visent exclusivement, me semble-t-il, une paix allemande. Et donc, si c'est une paix allemande, alors la solution est allemande. Les interactions sont allemandes. Ce qui me semble-t-il juste et vrai à discuter, c'est que l'objectif de Westphalie est de réduire un tout petit peu l'autorité de l'empereur et d'augmenter un tout petit peu les pouvoirs des principautés. Alors on arrive à une espèce de ce qu'on appelle l'équilibre, balance of power. Ceci me semble très intéressant. Même, je crois fondamentalement que le système n'est pas né à Westphalie, il est né beaucoup plus tard, fondamentalement. Quelque part, me semble-t-il, au milieu du 18e siècle, pas avant. Donc le système monde, à mon avis, où l'Afrique ne joue pas son rôle, est née à une époque où, effectivement, l'Afrique était un objet des relations internationales. Ceci est vrai. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, on a une Amérique latine qui a réclamé plus de liberté. On a une Amérique latine qui voulait, ou du moins des Indiens, qui voulaient être vraiment reconnus comme des humains, puisqu'on les traitait, on se demandait d'ailleurs s'ils étaient des humains, n'est-ce pas? Rappelez-vous de cette disputation en 1550 avec le pape, n'est-ce pas? Pour examiner le fait qu'effectivement, est-ce qu'un Indien de l'Amérique était un humain? Donc c'est poser la question. Finalement, on conclut, oui, ce sont des humains, probablement, peut-être qu'ils ont les mêmes rires que nous, ils ont les mêmes sourires, ils mangent effectivement comme nous autres, les Espagnols. Et donc, on conclut que ce sont des humains. Si ces individus-là sont des humains, alors comment faire pour renflouer les caisses de la papauté? Il faut trouver des sources de revenus ailleurs. Donc, on va tout simplement affirmer que la peau noire, comme ça, elle ne peut pas habiter une âme. Et donc, on peut changer la trajectoire pour aller au niveau du continent africain, pour chercher les esclaves et autres. Donc, un système monde qui est né avec une idée fondamentale qui est exporter la domination de l'Europe à travers la planète. Et donc, l'Afrique devient passablement un objet de ses relations internationales. Alors, maintenant, quelle est sa place aujourd'hui? Quand on regarde, et je fais ici une coupe synchronique, c'est-à-dire une photographie de l'Afrique et du système entier. Quelle est sa place aujourd'hui? On regarde, on peut dire, pour certains auteurs, qu'elle est sous-mondialisée. Sous-mondialisée, pourquoi? Parce qu'elle occupe une position de marginalité. On me dira, alors, effectivement, dans ce cas, elle demeure toujours un objet. Et j'ai dit, peut-être, mais non, pas suffisamment. Pourquoi? Parce que cet état de marginalité-là, probablement, est en train de changer. Il est en train de changer pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que le système aujourd'hui n'est plus un système à sens unique. Le cœur du pouvoir décisionnel ne vient plus exclusivement, me semble-t-il, du monde occidental, mais c'est un système décentré. Ce n'est pas décentralisé, mais c'est un système décentré. Décentré pourquoi? Parce que les pôles de décision bougent d'un point à un autre, au fil donc du mouvement qu'on appelle aujourd'hui de mondialisation. Mais vous voyez que cet état de marginalité de l'Afrique, qui était peut-être probablement subi en son temps, par rapport à la diachronique westphalienne, cet état de marginalité n'est plus, me semble-t-il, de la même nature, de la même teneur, aujourd'hui. Ensuite, quand on regarde du point de vue toujours du système actuel, on se rend compte qu'il y a d'autres acteurs, autres que l'Europe occidentale, autres que l'Amérique du Nord, qui sont en train de jeter un tout petit peu, peut-être, une petite cheveux, des morceaux de cheveux dans la soupe. C'est-à-dire, ils arrivent et ils essaient d'imprimer leur propre façon d'analyser la politique internationale et les relations internationales en général. Alors la question qu'on se pose, est-ce que la marginalité de l'Afrique est aujourd'hui voulue? Est-ce qu'elle peut décider finalement de profiter de cette situation de marginalité? Parce qu'on se rend compte que nous avons un système mondialisé à caractère absolument incroyable et qui est peut-être même inhumain, avec des effets potentiels qu'on n'avait pas perçus.
creuser les inégalités, renforcer les inégalités, même au sein des pays naguère qui étaient très riches. Les inégalités au sein de nos sociétés, des sociétés occidentales. Alors, est-ce que cet état de marginalité n'est-elle pas voulu aujourd'hui avec cette Afrique-là? Alors, je pense qu'elle n'a plus le choix pour quelques raisons. Premièrement, quand on regarde encore une photocopie synchronique de l'Afrique, on se rend compte qu'elle a une jeunesse, pas seulement en nombre, mais une jeunesse de plus en plus décomplexée. Premier élément qui me permet de dire que cet état de marginalité ne peut pas durer. Ou du moins, si elle dure, elle sera alors la résultante d'un choix rationnel. Pourquoi? Premièrement, parce que cette jeunesse-là, ce n'est pas seulement le printemps arabe qu'on a présenté, ce n'est pas seulement les mouvements d'humeur, des sauts d'humeur de jeunes, ça et là. Non, c'est une jeunesse de plus en plus décomplexée. Décomplexée par rapport, un, aux concepts et aux théories qui ont été développées historiquement. Décomplexée par rapport à son propre modèle historique et décomplexée par rapport à sa relation avec les autres. C'est-à-dire, cette jeunesse utilise aussi Twitter, utilise aussi Facebook, utilise aussi Internet, participe aussi au dialogue, participe aux forums internationaux, participe aux débats, écrit des blogs, etc., etc. Donc cette jeunesse-là, me semble-t-il, devient de plus en plus responsable de son propre destin. Ensuite, vous avez une autre explication du fait que cet état de marginalité, soit elle ne va plus durer, soit elle sera le fruit d'un choix stratégique rationnel, c'est le fait que le modèle westphalien lui-même est compatible. C'est-à-dire, on a trop longtemps, la plupart du temps, même parmi certains africanistes, on a trop longtemps considéré que le modèle d'État tel qu'il est né en Occident, autour du milieu du XVIIIe siècle, n'est pas compatible avec une réalité africaine pluriethnique. C'est pour cela qu'il y a des guerres. À mon avis, je crois que ceci est passablement en partie exact, parce que je crois que le modèle westphalien lui-même, il est compatible dans sa structure interne et dans ses manifestations externes. Pourquoi? Parce que si on revient au noyau irréductible des États, c'est quoi finalement? C'est un groupe d'humains qui accepte de partager une même destinée et qui est assis sur une même assiette territoriale dirigée par un groupe politique identique. Donc, à mon avis, je ne crois pas que ceci soit particulièrement une exceptionnelle création de l'Occident. Ceci a existé aussi longtemps que des groupes humains ont existé. Aussi longtemps que nos ancêtres ont cessé de voyager d'un coin à un autre pour faire la chasse et la cueillette. Aussi longtemps qu'ils se sont, ils ont réfléchi, ils ont décidé de se fixer, on a déjà, me semble-t-il, des rudiments de l'État. Et donc le modèle, il est compatible même avec une réalité pluriethnique. Même, je vais même aller plus loin de la provocation, n'est-ce pas? Et c'est qu'en réalité, ce modèle trouve une nouvelle lumière grâce justement à cette pluriethnicité. Regardez les États où, me semble-t-il, les choses commencent à aller mieux. Vous prenez le Canada par exemple. Pourquoi est-ce que c'est un modèle au plan international? Est-ce que c'est parce que c'est les premiers colons qui sont arrivés, n'est-ce pas, dans la côte québécoise? Non, je ne crois pas que ce soit seulement cela. C'est parce qu'on a compris finalement que la force réside dans le vécu ensemble, dans la pluralité. Autrement dit, la diversité n'est pas un problème en soi. Elle est toujours une richesse. Elle nourrit le vécu quotidien. Et c'est pour cela d'ailleurs, cette réalité africaine, mais je suis surpris de voir qu'on se focalise très peu à cela. C'est une extraordinaire richesse de voir que la Côte d'Ivoire ou le Burkina, on a 63 ethnies au Burkina Faso. Et si mes voisins chez moi, à côté de mes parents, quand ils parlent le dialecte, si je n'ai pas appris, je ne le comprends pas. Donc 63 ethnies ensemble, mais il n'y a pas de guerre. Les problèmes sont venus lorsqu'on en a utilisé pour des fins stratégico-politiques. Autrement dit, la diversité est toujours une richesse aussi longtemps qu'elle n'a pas été utilisée pour des fins politiques. Donc c'est cela. Donc une chose est d'avoir cette richesse et une autre chose est de l'affirmer comme un élément central. Ensuite, pourquoi est-ce que ce modèle est compatible? Parce qu'en réalité, ça opère une espèce de basculement. Pour pouvoir avoir un vécu ensemble qui est pacifié, il faut que l'individu se transforme
un citoyen. C'est cela l'élément central. Et cette transformation a eu lieu, me semble-t-il, on nous a présenté cela, sous l'analyse de ce qu'on appelle les philosophes du contrat social. Thomas Hobbes, Rousseau, Kant, tous ces philosophes qui montrent que l'individu lui-même, il décide de quitter cet état de nature horrible où c'est la guerre de tous contre tous pour créer un état civil, politique, n'est-ce pas? Et donc, l'individu devient un citoyen. Et on présente que ceci manque à l'Afrique parce que l'individu est resté immédiatement arc-bouté par rapport à son ethnie. Et donc, ça pose un problème. À mon avis, ceci n'est pas tout aussi exact parce que on confond le discours politique, les aspirations de certains hommes politiques avec une réalité au quotidien des peuples africains qui sont pacifiques et qui ouvrent leurs frontières aux autres. Ensuite, une nouvelle dynamique au niveau du continent. Et c'est là où l'introduction de notre collègue devient absolument intéressante. Il y a une nouvelle dynamique qui s'ouvre au niveau du continent. Personne n'ignore le fait qu'il y a effectivement une croissance soutenue depuis ces 10 dernières années, malgré les guerres. Malgré les conflits, il y a une croissance soutenue. Ensuite, on ne peut pas ignorer qu'il y a de plus en plus, me semble-t-il, une classe moyenne qui est en train de naître partout. Vous prenez le Tchad, vous prenez la Côte d'Ivoire, le Burkina. Il y a une classe moyenne qui de plus en plus est en train de naître. Et si cette classe moyenne grossit, effectivement, l'agenda sera plus exclusivement économique. L'agenda va être aussi politique, nécessairement. C'est pour cela d'ailleurs qu'elle n'a plus le choix, cette Afrique-là, elle n'a plus le choix que de se lever et de se positionner par rapport à ces nouveaux développements. Ensuite, je me dépêche parce que je vais laisser la place à la discussion, n'est-ce pas, qui sera beaucoup plus animée. Ensuite, l'Afrique est la marche du monde. Et c'est là où j'aimerais vraiment que nous discutions. Je suis absolument ouvert pour les critiques, pour les dialogues. Si vous pouvez être en désaccord avec mes idées, ceci va contribuer à nourrir la discussion, n'est-ce pas? Je pense que elle a la solution de ce qui se passe actuellement à travers le monde. Elle a la solution. Et j'en ai la conviction et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on regarde, dans une perspective historique, depuis le XVIIe siècle, qu'est-ce qu'on observe? On a fait un mouvement où, effectivement, on a mis l'accent sur l'économie, c'est-à-dire un développement économique. Le développement signifie quoi? Ça signifie la croissance économique, n'est-ce pas? Plus vous avez l'argent au niveau de vos banques, plus vous êtes développé, n'est-ce pas? Plus de laptops, plus de iPad, de iPhone, toutes ces choses-là, on en a. Ça, c'est le signe du développement. Et tout d'un coup, depuis ces 30 dernières années, en tout cas, me semble-t-il, depuis le milieu des années 50-60, grâce à certains penseurs, on s'aperçoit que ceci pose un problème. On ne peut pas seulement mettre l'accent sur l'économie. Il faut aussi, me semble-t-il, tenir compte d'autres dimensions. La dimension sociale du développement, la dimension environnementale, particulièrement. Et donc, développement devient, me semble-t-il, aussi des initiatives qui vont arriver à combiner les deux. Mais malgré ce discours, on se rend compte que le volet économique domine toujours. Et donc, on se rend compte qu'il faut qu'on nous parle maintenant de développement durable. C'est pour ça que je pense que ce concept lui-même pose un problème. Un développement dans sa structure actuelle ne peut pas être durable si on continue toujours avec les mêmes outils. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes outils pour inventer d'autres choses. On invente toujours, me semble-t-il, la même chose. Donc, dans sa structure actuelle, elle est difficilement durable, cette façon de se développer. Et donc, je crois que l'Afrique pourrait alors, avec son état de marginalité voulu, pourrait alors imprimer un autre développement. Ce n'est pas un développement durable, parce que dans sa structure actuelle, cela est difficile. On voit alors tout ce développement de l'industrie minière, etc. etc. Si on continue dans ce sens-là, on continue le modèle occidental qui est en train d'aller tout droit vers la catastrophe. Et donc, elle pourrait, cette Afrique-là, donner un autre développement. Et pourquoi? En puisant alors dans sa propre façon de penser le monde. Autrement dit, je pense, lorsqu'on regarde les écrits les plus anciens au niveau de l'Afrique, lorsqu'on se donne la peine de visiter l'histoire des sociétés africaines, on se rend compte que l'Afrique avait un modèle. Elle avait un modèle qui n'avait absolument rien à voir avec le modèle d'ailleurs. Parce que quand on regarde, si on peut se transporter un temps soit peu, par exemple au Moyen-Âge, avant, quelque part vers le 12e siècle, imaginez le monde vers le 12e siècle. Effectivement, on n'aurait pas de PowerPoint, on n'aurait pas tout ceci. Mais imaginons notre monde vers le 12e, 11e, 12e siècle. Donc une Afrique avant l'arrivée des acteurs exogènes. On se rend compte que, en même temps que se développait sur le continent occidental, sur le continent européen en général, un mouvement vers un individu libre, et quête de plus de liberté, et donc un fondement de la société lié à la liberté. C'est-à-dire l'individu libre va décider lui-même d'aller vers un autre individu libre pour construire la société. Et donc, la société devient alors le produit d'un choix rationnel de l'individu, puisqu'il a ce qu'on appelle la recta ratio, la rationalité. N'est-ce pas? Il va lui-même décider que ma situation d'état de nature n'est pas vivable, je vais aller vers l'autre, mais c'est mon choix individuel, c'est ma liberté d'aller vers l'autre pour pouvoir alors instituer la société civile. Cette société civile est artificielle par nature et donc potentiellement limitée dans sa dynamique. Toujours le Moyen-Âge. Vers la fin du 11e siècle, on se reprend à l'Afrique, c'est exactement l'inverse, le modèle de construction sociale. Ce n'est pas la liberté, mais c'est la solidarité du groupe. C'est-à-dire l'individu n'est individu qu'à travers son appartenance à un groupe. Autrement dit, tel que Mills et l'autre vont le développer plus tard, vers le 19e siècle, autrement dit, vous êtes vous parce que vous appartenez à un groupe. Votre individualité est déterminée par rapport à l'appartenance au groupe. Et donc, c'est le groupe qui devient alors l'indicateur. Donc, la société n'est pas artificielle, elle est naturelle, et c'est au sein de cette société naturelle que l'individu se meut, et donc fait quoi ? S'épanouit. Donc, le degré d'épanouissement de l'individu dépend alors de son rang au sein de ce groupe. D'où le fait qu'on perçoit, on décrit à tort que cette Afrique-là n'a pas de projet. Elle ne fait rien, elle n'invente rien, absolument pas. Elle avait des choses substantiellement authentiques à elle-même. Et donc, voici ce modèle, fondé sur la solidarité du groupe, que certains africanistes utilisent l'expression grégarisme, le modèle grégaire. Et moi, je pense que ce n'est pas suffisant. Il faut ajouter grégarisme cosmopolitique, parce que c'est important ce mot-là. Et si on se limite à grégaire, on croit que c'est seulement l'individu s'efface dans le groupe. Alors que non, vous êtes individu par rapport à votre appartenance au groupe, mais aussi vous avez une sphère de liberté, une liberté définie grâce à votre appartenance au groupe. Et donc ce modèle que moi je qualifie de grégarisme cosmopolitique avait l'avantage de deux choses. Premièrement, l'individu n'est pas totalement effacé. Parce que tout simplement, il garde une sphère, un domaine réservé, si on peut utiliser l'expression très chère aux juristes, n'est-ce pas? Un domaine réservé pour l'individu. Ensuite, au sein de la société, il y a une espèce de strate. Une société stratifiée, où si vous êtes un adulte, vous appartenez à ce groupe, avec des fonctions prédéterminées. Si vous êtes une femme, vous appartenez au groupe des femmes, avec une fonction prédéterminée. Si vous êtes un enfant, vous appartenez à la classe des enfants, avec une fonction prédéterminée. C'est pour cela que ceux qui croient que ce modèle de grégarisme classique opprimait les femmes, n'ont pas perçu la réalité. Parce que vous êtes défini par rapport non seulement à votre groupe, mais aussi à votre classe. Et donc, il n'y a pas oppression d'une classe à une autre. Il y a appartenance à une classe ou à une autre. Donc, de ce point de vue, je crois que ce modèle cosmopolitique pourrait être, ou du moins va être, me semble-t-il, un élément, un indicateur de ce que le système international va devenir nécessairement. Quand on regarde le débat, et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc voici un modèle
qui est venu de l'Afrique, et qui était là, et que tous, soudainement, qu'est-ce qui se passe? On arrive au 15e siècle, 16e siècle, eh bien, d'autres, des acteurs exogènes interviennent, on interrompt le processus interne d'évolution de ce modèle. Donc je ne dis pas que ce modèle n'allait pas se développer. Effectivement, tout comme le contrat social classique au Bayésien a évolué dans le temps, donc je crois que le modèle du grégarisme africain avait aussi le temps de se développer. Peut-être changer, peut-être donner naissance à autre chose, mais me semble-t-il, ça ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, qui est une espèce de mélange du genre. On ne sait pas exactement ce que c'est réellement. Mais finalement, fondamentalement, je crois que avoir la capacité de faire la symbiose, c'est-à-dire une espèce de transition, de mélange entre à la fois la liberté et la solidarité, est une doctrine qui va servir, qui peut servir, qui doit servir à organiser le système international qui est en train de naître. Parce que le système actuel est en effervescence, incontestablement. Regardez tout simplement ce qui se passe autour de nous. Que ce soit en Amérique latine, il y a des débats. Quand vous allez en Asie, on croit à tort qu'on peut se focaliser exclusivement sur la Chine qui se réveille, n'est-ce pas, avec une croissance économique à deux chiffres. Mais on se rend compte que là aussi, il y a un problème potentiellement explosif. Parce que quand on regarde la configuration de ce milliard d'individus, on se rend compte qu'il y a un écart absolument incroyable entre les riches citadins et les pauvres paysans. Et donc, un modèle d'inégalité. On creuse ce modèle d'inégalité. Ensuite, puisqu'il y a cette inégalité, il y a les paysans, ou du moins ceux qui sont restés dans les campagnes, qui vont vouloir migrer vers les villes. Ça gonfle un problème. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, les grandes multinationales estiment que plus ça développe, va falloir augmenter le SMIC, n'est-ce pas, pour payer, pour produire les ressources. Donc on va délocaliser de la Chine, on va repartir en Afrique, en Éthiopie, ou on va repartir quelque part au Bangladesh et ailleurs. Donc même en Asie, le modèle qui est si longtemps présenté comme étant les trois grands, les tigres asiatiques, sont en train de nous présenter des limites. Ensuite, quand on regarde en Afrique, et en Afrique du Nord particulièrement par exemple, la jeunesse qui était très immédiatement au contact avec l'Ouest, avec l'Occident, réclame alors qu'il faut changer ces dictateurs et mettre en place un régime démocratique, même si le processus n'a pas encore été mené à terme. Si on part au Moyen-Orient, on se rend compte que là encore, le système est en effervescence. Pourquoi? Parce que les vieux conflits entre Israël et Palestine sont en train de se retrouver dans l'agenda international avec un acteur américain qui découvre que l'augmentation exponentielle de la force n'est plus suffisante pour faire face aux nouvelles menaces. Autrement dit, Il n'y a pas d'égalité mathématique entre la puissance militaire et la sécurité. Il y a une déconnexion entre les deux. C'est pour cela d'ailleurs, toute l'armée, la plus grande armée en Afghanistan, grâce à l'OTAN, ils sont en train de quitter notamment, n'est-ce pas, n'ont pas été en mesure de faire face à quelques extrémistes en pyjama, n'est-ce pas. Et donc je crois potentiellement qu'il y a une déconnexion entre les deux. Et l'acteur américain qui rythmait alors l'action, ou du moins l'interaction systémique du monde, se retrouve, me semble-t-il, face à une réalité contemporaine qui ne reflète plus la guerre froide. Ensuite, vous avez la Russie, qui réclame tout simplement un respect lié aux Tsars, n'est-ce pas ? Une Russie qui se croit être détentrice normale, naturelle, de l'ex-URSS. Donc cette Russie-là dit non, je suis aussi un acteur, il va falloir me respecter. Donc vous voyez un monde où les anciennes actions, les anciennes façons de réfléchir ne reflètent plus la quête quotidienne des aspirations des peuples. Au milieu de ces débats, si on revient un tout petit peu au nord de l'Afrique et on franchit la mer et on regarde le pourtour de ce Moyen-Orient, on se rend compte qu'il y a une déchirure entre deux, qu'on ne présente pas assez d'ailleurs, qui est très symptomatique de la réalité contemporaine, c'est-à-dire le fait religieux. de la crise théocratique est en train de s'ingérer dans l'agenda international. La crise théocratique qui a, me semble-t-il, avait été examinée sous l'angle du théorisme islamique, ne reflète plus, me semble-t-il, la réalité de ce Proche-Orient. Pourquoi ? Parce que vous avez deux fractures entre, d'une part, les sunnites et, d'autre part, les chiites. Donc vous voyez que ce modèle-là aussi est en train de basculer. Donc, au milieu de ceci, vous avez une Afrique qui n'est pas encore suffisamment mondialisée, entre guillemets, dans ce sens. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas Internet. Parce que tout le monde n'est pas connecté dans le commerce numérique. Parce que tout le monde n'a pas General Motors. Donc je crois fondamentalement que c'est un continent qui a l'avantage de pouvoir faire le choix. Autrement dit, nous avons des traditions et des valeurs traditionnelles absolument authentiquement africaines qu'il faut remettre à l'agenda international. C'est-à-dire oser affirmer le fait qu'on est un jeu africain et qu'on est absolument décomplexé par rapport au débat à la fois théorique, philosophique et pratique. De oser apporter aussi une manière de réfléchir qui n'a pas été faite jusque-là. Ensuite, et c'est là où je vais attirer votre attention un petit peu. Ensuite, pourquoi ? Parce que tout simplement, quand on regarde peu mondialisé, une jeunesse qui a immigré, qui a migré comme les autres, qui retourne sur le continent, cette jeunesse fait quoi ? Eh bien, elle réclame alors le fait qu'il faut revisiter sa propre histoire. Elle va écrire elle-même, cette jeunesse, sa propre histoire. Donc, si on prend ceci, on se rend compte que la crise théocratique qui s'est invitée dans l'agenda mondial n'existe pas complètement en Afrique, à part un tout petit peu ce qu'on a présenté comme le Mali. Ce n'est pas véritablement une crise théocratique. Parce que les extrémistes qui sont arrivés sont venus d'ailleurs. Ils ne sont pas des Maliens. C'est-à-dire, l'islam africain est authentiquement africain. Ensuite, la tradition de la chrétienté africaine est authentiquement africaine. Autrement dit, vous avez ce milliard et demi, d'ici 15 ans, qui sont à la fois chrétiens, catholiques, animistes, bouddhistes, tout à la fois, et qui vivent ensemble, et qui partagent des cultures absolument proches. Et un Burkinabé n'est pas très loin d'un Ivoirien, s'ils ne sont pas similaires. Un Ivoirien n'est pas très loin d'un Sora, etc. Il y a des éléments, au-delà de ce qu'on présente, des éléments de convergence. Ce qui n'existe pas, parce que si vous êtes américain, eh bien, class of civilization. Non, vous n'êtes pas un musulman. Alors, pas du tout. On ne veut pas cela. Si vous êtes du côté de l'Arabie Saoudite, eh bien, tout ce qui vient de l'Occident, c'est satanique. On n'en veut pas. Donc, vous avez un dialogue de sourds entre une fracture du monde qui n'est pas existante sur le continent. C'est-à-dire, les 1 milliard et demi ont la capacité de redéfinir la carte géostratégique du monde si elle se prend elle-même au sérieux. Autrement dit, si elle s'accorde à dire qu'elle peut, elle a des choses à dire et qu'elle a des valeurs intrinsèquement africaines et qu'elle peut apporter ces valeurs-là au niveau de la construction du monde qui sera de plus en plus interconnecté. On ne peut plus revenir en arrière. Tout comme on a fait le basculement après Westphalie, on n'a pas pu revenir en arrière. L'État a été sécularisé, on n'a pas pu revenir en arrière. Donc le monde va être de plus en plus interconnecté. Et donc les problèmes du monde seront de plus en plus interconnectés. Et dans ce sens-là, je crois fondamentalement que la place de l'Afrique dans cette nouvelle redistribution des cartes est intéressante pour l'analyse, non pas pour les académiciens que nous sommes, mais même pour les décideurs politiques. Parce que quand je regarde ce qui se passe sur le continent, au-delà de ce que nous présentent les médias, je crois profondément qu'il y a une nouvelle dynamique qui s'opère et que cette dynamique-là, on ne peut plus l'arrêter. C'est pour ça que je crois fondamentalement qu'il faut prendre l'Afrique au sérieux, mais si les Africains eux-mêmes se prennent au sérieux. Et je crois que je peux encore continuer. On peut ouvrir la discussion parce que je préfère l'interaction que la monographie, n'est-ce pas, monologue, c'est pas si intéressant. Voici quelques pistes de réflexion. Je vous invite donc à poser la question, à m'interrompre.